tous les homicides commis au Québec, incluant les affaires non élucidées, vues à travers les archives nationales et les documents légaux. Bienvenue sur Mémoire d'archives. Au cours du premier épisode sur le féminicide, nous avons vu quelques cas, comme vous vous en souvenez probablement. Et bon, j'avais fait une introduction pour vous montrer, c'était pas banal d'ailleurs, pour vous montrer qu'en vous cachant l'époque réelle d'un fait qu'on pouvait le placer à n'importe quelle date si on veut, donc on peut le placer dans le temps pratiquement n'importe où et ça change pas grand-chose parce que le comportement des hommes violents ne semble pas avoir évolué beaucoup avec le temps, donc c'est pas la technologie ou les nouvelles inventions et tout ça, l'évolution naturelle du monde qui a changé quoi que ce soit de ce côté-là. Aujourd'hui, on va commencer, on va voir d'autres cas évidemment, parce que je pense que pour sensibiliser au sujet, il faut en parler le plus possible et plus on va parler de cas différents, plus on prend conscience, je pense qu'il y en a eu beaucoup et qu'il y en a encore malheureusement. Alors, le féminicide, comme je le disais dans le premier épisode, ben c'est un homicide par conjoint, tout d'abord, et qui, bon, dans les homicides en général, on va commencer par le sommet de la pyramide, il y a quatre grandes catégories. Il y a le crime par entreprise criminelle qui englobe surtout les meurtres par contrat pour protéger une organisation, les gangs de rue, tout ça. Il y a différentes catégories dans ça qui certains se distinguent plus que d'autres. Il y a le vol aussi, bon. Et il y a la catégorie aussi des crimes plus personnels. Les crimes personnels, c'est les plus nombreux. C'est des personnes comme vous et moi qui, bon, du jour au lendemain, peuvent péter une coche et deviennent meurtriers, alors que sous l'entreprise criminelle, ben, souvent, c'est des criminels d'habitude qui sont déjà dans un certain milieu. Pas nécessairement crime organisé, mais qui sont déjà dans un monde à part, si on veut. Alors que le meurtre personnel, les homicides personnels, ben, souvent, c'est... ça englobe beaucoup de genres d'ailleurs. Bon, le meurtre par vengeance, les conjoints, les parents aussi qui tuent leurs enfants, le fratricide entre frères, entre sœurs, les enfants qui tuent leurs parents. Bref, c'est tout ça. Je pense que vous avez compris. Troisième et quatrième catégorie, je veux juste le souligner rapidement. Il y a les meurtres sexuels à caractère sexuel et les meurtres cautionnés par un groupe. Alors, évidemment, vous aurez compris que les homicides par conjoint se situent dans les homicides personnels. La grande catégorie, au fond, c'est l'homicide par un conjoint ou un ex-conjoint. Ici, on ne fait pas la différence parce que ça ne semble pas en faire, d'ailleurs. Il y a des conjoints qui, à la moindre dispute vont passer à l'acte, alors que d'autres vont attendre beaucoup plus longtemps. Je pense que je suis tombé sur un cas l'autre jour qui... je ne me souviens pas du nom, là, j'en vois tellement. était son ex-conjoint, puis il a décidé de passer à l'acte après plusieurs mois, même, je ne sais pas si... Je ne veux pas dire n'importe quoi, là, je pense que ça faisait presque 2 ans qu'il n'était plus avec la fille en question. Alors, voilà, tu sais, faut vraiment... englober tout ça. Donc, quand on dit par un conjoint ou un ex-conjoint, on sait que ça englobe les deux. Bon, juste question de terminologie ou de précision, dans cette catégorie-là, on va voir qu'elle se sous-divise en deux catégories, c'est-à-dire les conjoints suicidaires et les non-suicidaires, mais avant cela, juste pour rester de façon plus générale, ces homicides-là impliquent une victime de sexe masculin ou féminin, par un conjoint ou une conjointe. Mais on va voir que, bon, les conjointes qui deviennent tueuses dans ces cas-là sont assez rares. On englobe aussi dans cette catégorie les crimes qui ont été commis au sein d'un couple gay. Comme je le disais dans le premier épisode, faut pas penser à l'orientation sexuelle à ce moment-là parce que les comportements sont semblables. Donc, il faut vraiment parler de conjoint et non pas rester dans l'idée préconçue que ça se passe juste entre couples hétérosexuels. Évidemment, ça l'a été longtemps parce que notre historique est ce qu'il est. Durant 300, 400 ans, ben, la plupart des couples, c'était ça. Maintenant, c'est plus ouvert. Et oui, effectivement, j'ai même fait une balado là, sur le crime de George Roberts, là, qui serait un des premiers cas, un des plus anciens cas en 1939, là, de meurtre par conjoint, là, mais conjoint de type homosexuel. Donc, voilà. Quand je disais aussi conjoint et ex-conjoint, il faut aussi englober ceux qui se pensent être le conjoint. C'est plus rare, mais ça arrive. Par exemple, un jeune homme fait une obsession sur une fille, et puis lui, dans sa tête, il est avec elle, mais elle ne veut rien savoir, mais il se fait des projections et tout ça, et à un moment donné, il passe à l'acte pour X raisons, peut-être par frustration de ne pas obtenir ce qu'il veut. Mais c'est considéré aussi comme un conjoint, même si la fille n'a jamais couché avec elle, avec lui, ou n'a jamais eu de relation, quoi que ce soit, directement, n'a jamais donné son consentement. Donc, lui, dans sa tête, il se considère comme un conjoint. Donc, on va inclure ceux-là. Ils sont quand même assez rares, ces cas-là, mais on les inclut quand même. Parce que ce type-là, principalement, même s'il n'a jamais été en couple, ce type d'agresseur, pour lui, dans sa tête, il agit exactement comme un conjoint meurtrier. Donc, c'est ça, c'est vraiment de la possession extrême. Ensuite, on va voir qu'on va diviser cette catégorie-là en deux. Donc, des conjoints suicidaires et des conjoints non suicidaires. Pourquoi? C'est parce que les deux catégories, quand on fait la distinction entre les deux types d'agresseurs, bien, on remarque des différences. Et je pense que ça va être important, peut-être, pour la compréhension du futur. Ça va nous aider, je pense, à mieux comprendre. Et tout ça, ça donne même des statistiques assez intéressantes. On va en parler, d'ailleurs, aujourd'hui. Donc, on saute aux homicides commis par un conjoint suicidaire. Pour certains dossiers, les renseignements, malheureusement, il faut être honnête, surtout quand on remonte dans le temps, des fois, c'était pas évident dans la description à savoir dans quelle catégorie je devais les mettre, parce que des fois, l'acte, on décrivait l'acte, mais après ça, on décrivait pas le comportement du tueur. Et là, est-ce qu'il avait tenté de se suicider? Est-ce qu'il était dépressif? Fait que c'est sûr qu'il y a une marge d'erreur dans ça. Je vous le cacherai pas, je suis pas parfait, et la documentation non plus, sans, du moins celle qui a survécu. Donc, parfois, c'était très difficile. Ou, par d'autres occasions, des fois, le tueur se suicidait tout de suite après l'acte, ou plus tard, ou il essayait seulement. Des fois, il y en a qui ont essayé en prison, et bon, bref, on va avoir toutes sortes de cas. Ce qu'on remarque avec le conjoint suicidaire, c'est que, on va le voir avec le temps aussi, c'est qu'il semble utiliser des moyens beaucoup plus violents pour commettre son crime. Sa colère est telle, je pense, qu'il souhaite emporter quelqu'un avec lui dans sa chute. Là. C'est comme s'il faisait un suicide élargi. Un peu comme un tueur de masse. Il veut pas, entre guillemets, il veut pas partir tout seul. Oui, il y a des conjoints qui veulent tuer leur conjointe pour pas qu'elle appartienne à d'autres, pour pas qu'elle puisse s'épanouir et ben bref, qu'elle puisse connaître d'autres hommes. Mais pour eux autres aussi, c'est. Un autre aspect, c'est ça, c'est comme une fin en soi, c'est fini, il peut plus aimer, en tout cas, bon, bref, il y a toutes sortes de raisons dans ça. C'est difficile parfois de se mettre dans leur tête à 100%, voire même impossible, mais de ce qu'on comprend, c'est un peu tout ça. Donc, c'est difficile de critiquer puis de mettre le doigt sur une seule raison. Faut vraiment faire attention. Mais bon, bref, c'est sûr et certain que dans leur suicide, ils ne veulent pas partir tout seuls. Ça, c'est évident. Ça se passe souvent en deux étapes, ce type de crime-là. Bon, donc, d'abord, vous aurez compris que le conjoint ne peut pas se suicider en premier lieu. Il faut d'abord qu'il commette le meurtre. Donc, c'est sûr que la première étape, c'est le meurtre de la conjointe ou du conjoint. Donc, voilà, c'est comme ça que ça commence. La deuxième étape peut être différente. Il peut se suicider tout de suite sur la même scène de crime, mais aussi il peut réagir autrement, être hésitant, aller se comment je dirais ça, aller ailleurs, se suicider dans un autre endroit, prendre une certaine distance par rapport à la première scène de crime. Donc, on peut se retrouver avec deux scènes de crime, mais il ne faut pas confondre avec la mise en scène, parce qu'il n'y a pas vraiment de mise en scène dans ça. Là, lui, il veut partir, il veut mourir, et voilà, il n'y a pas l'intention de vraiment de brouiller les pistes, parce qu'il sait que l'enquête, il s'en fout, là. Il s'en fout de l'enquête carrément. Il ne sera plus là. Il ne sera plus vivant. Donc, on ne sait pas vraiment comment expliquer ça, à savoir pourquoi il y a des hommes qui se suicident directement tout de suite après, ou qui attendent, qui vont un peu ailleurs, ou qui ne savent pas trop, qui rôdent. Bon, bref, il y en a même qui vont se rendre à la police, même s'ils sont suicidaires. Bref, c'est comme un peu le tueur de masse qui a pensé beaucoup, beaucoup à son forfait, qui a tellement planifié son agression, qui a oublié de penser à planifier le lendemain, donc il n'y a aucune porte de sortie. Alors, des fois, il se réveille, puis là, ben, soit qu'il va se rendre à la police ou qu'il retourne l'arme contre lui. Évidemment, on va voir aussi qu'il y en a qui démontrent un réel sentiment de se suicider, mais qui manquent leur coup. Il y a des histoires assez horribles de ce côté-là. On va tous les voir, inquiétez-vous pas. Donc maintenant, l'homicide par un conjoint non suicidaire, ben ce type de tueur pourrait nous laisser croire qu'il n'a pas très bien planifié son crime, voire pas du tout. Donc ça peut être spontané. Il peut être plus spontané que le suicidaire. Le suicidaire, souvent, il arrive avec son arme à feu, donc il l'a planifié jusqu'à un certain point. Depuis combien de temps, on ne le sait pas, mais s'il arrive avec son arme, souvent c'est planifié. Donc, dans le non-suicidaire, lui, ça arrive des fois avec plus de colère, et on va le voir aussi par les types d'armes utilisées. Des fois, c'est des armes vraiment pas planifiées. Ça peut être le couteau de cuisine dans la cuisine au moment que la dispute survient, ou quelque chose, une arme d'opportunité, comme on dit. Et une fois que son crime a été commis, ben souvent, si c'est spontané, il ne l'a pas planifié, donc il n'était pas préparé mentalement à voir la scène qui se retrouve à ses pieds. Alors là, il peut réagir de toutes sortes de façons. Là, ça dépend vraiment du niveau de personnalité ou du niveau d'éducation, ou peu importe. Bon, il y a des hommes qui, bon, évidemment, vont faire de la mise en scène, ils vont essayer de faire croire à quelque chose, ils vont laver le couteau, ils vont peu importe, ils vont essayer de faire quelque chose. Et je tiens aussi à souligner qu'il y a peut-être quelques cas là, qu'on a vus. L'utilisation du poison. On a tendance à croire que le poison a été utilisé uniquement par les femmes, ce qui est faux. Il y a quelques hommes qui s'en sont servis. Mais l'utilisation du poison, juste le fait d'utiliser cet élément-là comme arme de crime, est pratiquement de la mise en scène, parce qu'on essaie de faire croire la mort à autre chose. C'est pas comme un couteau, on le sait, là, c'est assez évident, là, les plaies que ça fait, comme une arme à feu, par exemple. Mais le poison, on n'est pas sûr, on essaie de dévier, surtout à une certaine époque. Aujourd'hui, on le sait qu'on les détecte mieux. Il y a peut-être des poisons qu'on ne détecte pas du tout encore. Mais pour la plupart, surtout à une certaine époque, c'est un peu de la mise en scène. Parce que quand on cache une petite dose de scie dans la soupe de madame, bien, c'est pas spontané, là. Premièrement, c'est prémédité. Mais c'est de la mise en scène à quelque part. Puis là, après ça, essayer de faire croire qu'elle est peut-être morte dans son sommeil, c'est ça, c'est de la mise en scène, jouer sur le scénario, là. Donc, on veut présenter la mort autrement qu'une enquête policière, mais c'est difficile de savoir dans la proportion dans laquelle ça a fonctionné ou pas. Mais en tout cas, dans les cas qu'on a, on a réussi à découvrir le crime derrière tout ça. Bon, comme je le disais, un coup qui sont... la réaction du tueur, de toute façon, après le crime, est toujours aussi importante que celle avant. Et celui qui est spontané, ben, il va surtout réagir après, c'est évident. Si un homme s'en va voir sa blonde un soir, puis il se doute pas du tout, lui, il s'en va là pour la voir, et puis là, la chicane pogne, puis paf, il la tue. Il s'attendait pas à la tuer ce soir-là, nécessairement. Donc, c'est après la réaction qui va soit aggraver son cas ou qui va nous démontrer un peu plus sa personnalité. Il y en a même qui réagissent de façon loufoque. Il y en a qui essaient de se cacher. Il y en a qui se rendent, tout simplement, sans être suicidaires, comme je le disais tout à l'heure. Mais souvent, les conjoints qui survivent à ça, souvent, ils passent aux aveux. C'est sûr qu'on a eu des cas plus spectaculaires dans ces dernières années. Un cas, entre autres, avec une alerte en berbe, ça s'est soldé par deux meurtres. Mais c'est ça, souvent, ils vont passer aux aveux parce que, bon, c'est spontané, ils n'ont pas eu le temps de se préparer. C'est tout le contraire, par exemple, dans les crimes, les homicides commis par entreprise criminelle, qui souvent sont commis aussi par des gens plus endurcis. Alors, c'est un peu tout ça qui nous défile. Comme on l'a vu au premier épisode, le plus ancien cas que j'ai pu répertorier de meurtre par un conjoint, ça s'est passé. Ça a été celui de commis par Charles Cavanagh auprès de son épouse en 1795. Et lui, il s'était servi d'une baïonnette là, pour la faire taire, tout simplement. Et maintenant, on va voir quelques chiffres. Je tiens à le préciser, ma recherche n'est pas terminée. J'ai révisé, j'ai beaucoup de dossiers jusqu'à aujourd'hui, mais je les révise tranquillement année par année. Et les données que je vais vous transmettre sont basées sur tous les homicides par conjoint depuis la Nouvelle-France jusqu'en 1972. Donc voilà, j'en ai répertorié presque une centaine dans ça. Je sais qu'il va s'en accumuler beaucoup d'autres après 1972, donc jusqu'à aujourd'hui. Mais ça, on le verra plus tard. Mais la tendance est assez nette que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Et puis, ça ressemble tellement à ce qu'on voit de nos jours que je pense pas qu'il y ait eu tellement de différence. Donc, on y revient encore à nos deux catégories. Premièrement, les conjoints suicidaires. Eux, on les retrouve dans une proportion de 37,6%. Donc, un peu moins. Ils sont un petit peu moins fréquents, les suicidaires. J'ai l'impression que ça va augmenter après 1972, parce que c'est ce que j'ai cru remarquer depuis le début. C'était surtout des conjoints non suicidaires au début. Et tranquillement, les suicidaires sont embarqués. Est-ce que les gens sont plus suicidaires avec le temps qui passe, je veux dire, sur l'échelle du temps de notre histoire, je ne sais pas. Est-ce qu'ils ont plus de pression sociale? Est-ce que c'est ça qui fait que ça influence? J'en ai aucune idée. C'est des questions que je me pose. S'il y a des psychiatres parmi vous qui ont des réponses à ça, écrivez-moi. Vous allez avoir mon adresse courriel à la fin de la balado. Alors, voilà, on les retrouve dans 37,6% contre 62,4% pour les non-suicidaires. On revient, avant, plus dans le détail, on revient avec nos suicidaires. J'ai répertorié les façons qu'ils prennent pour tuer leur conjointe. Je dis conjointe parce que la plupart, c'est des conjointes, là. Mais on va voir qu'il y a des conjoints dans tout ça aussi. Eux, ils utilisent l'arme à feu dans 48,6% des cas. Donc, les suicidaires, quasiment un cas sur deux. On peut quasiment parler d'un cas sur deux. Rendu là, il manque un 1% et demi. Ils sont décidés. Ils veulent... j'ai l'impression, c'est une question que je me pose, mais j'ai l'impression qu'ils veulent utiliser l'arme avec laquelle ils vont mourir eux-mêmes après. Donc, s'ils ont pensé se suicider avec une arme à feu... Ben, c'est ça qu'ils vont utiliser aussi pour commettre le meurtre. Ça me semble assez évident, mais bon, bref, j'ai pas de preuve de ce que j'avance, mais c'est quand même un sur deux. Alors, vu qu'ils prévoient mourir eux autres aussi, c'est comme, je vous dirais, s'ils tuent sa conjointe avec un couteau à patate, ben peut-être qu'il va y repenser deux fois s'il faut qu'il se suicide après lui aussi avec un couteau à patate. Il est pas sûr de réussir, ou bon, bref. Et ces gens-là, bien souvent, ils ont assez souffert qu'ils ne veulent plus souffrir physiquement. Alors, l'arme à feu est un moyen idéal pour ça. C'est plus définitif, puis ça se fait dans un coup sec. Et ensuite, Dans 25,7% des cas, ils utilisent l'arme blanche, donc le couteau, la baïonnette, la hache aussi, avec le tranchant de la hache. Donc, additionné aux armes à feu, à 50% et 25% pour les armes blanches, il en reste plus beaucoup. Il reste un dernier 25% pour toutes les autres façons de tuer. Donc, on peut dire que vraiment, c'est l'arme blanche et l'arme à feu qui sont les plus populaires dans cette catégorie-là chez les conjoints suicidaires. Donc, ce qui veut dire que, par exemple, je ne vais pas faire de vous des profileurs, mais quand vous allez regarder des nouvelles la prochaine fois et que vous entendez ça, que ça semble se dessiner, le conjoint a été retrouvé mort avec sa conjointe dans une maison, c'est peut-être pas un double meurtre. Et si vous entendez, il y a une arme à feu dans ça, les voisins se doutaient de rien, ben vous avez des grosses chances, déjà en partant avec aussi peu d'informations, si vous savez qu'il y a une arme à feu d'impliquée, ben que c'est peut-être un conjoint suicidaire qui vient de commettre le pire. C'est un indice comme ça. C'est sûr que plus on en sait, plus ça devient précis. Il ne faut pas généraliser trop au début. Mais quand même, c'est des cas... c'est un peu comme un hit and run dans un stationnement. Là. Quelqu'un qui tire à partir d'une voiture et tout ça, puis il tire partout. Ben vous avez des bonnes chances que ce soit un crime relié aux gangs de rue. Bon. Maintenant, on a si on suit l'ordre des proportions, ils vont se servir aussi dans 14,3% des cas, ils vont utiliser un objet contondant pour commettre leur crime. Là, ça ne dit pas pour le suicide, par contre, mais pour commettre leur crime, ils vont. Puis de toute façon, quand je dis suicidaire, ça ne veut pas dire qu'ils se sont tous suicidés. Si je vous rappelle, le cardiologue Guy Turcotte, il était suicidaire, mais ils ont sauvé la vie quand même. Mais là, on ne parle pas d'un conjoint, lui, il avait tué ses enfants, mais c'est quand même, c'est ça, là, c'est qu'il y en a qui ont survécu aussi. Alors, 14,3% pour les objets contondants. Ensuite, on en arrive à la strangulation dans une proportion de 8,6%. Voyez-vous, des fois, c'est pas... Je sais qu'il y en a qui ont tendance à... Il y en a qui m'ont déjà dit que... Je sais qu'ils ont j'ai déjà entendu ça, moi aussi, ailleurs, sur certains spécialistes, que la strangulation, c'est plus un meurtre personnel, parce qu'on est proche de la personne, on lui touche, on lui... Bon, c'est pas comme si on la frappe avec un bâton de baseball, il n'y a pas de contact physique. Mais ça veut rien dire ici. Son suicidaire, c'est pas beaucoup, là, 8%. Alors, ensuite, battu à mort, 2,9%. Dans leur cas, dans la catégorie toujours des conjoints suicidaires, j'ai répertorié un seul cas qui a eu de la mise en scène. Je ne me rappelle pas lequel, je le trouverai puis je vous reviendrai là-dessus. Mais bref, ils ne font pas de mise en scène habituellement. Ce qui est remarquable aussi dans cette catégorie-là, c'est que la scène de crime se situe chez la victime dans 91,4% des cas. Donc, c'est assez évident que les suicidaires vont aller chez la victime commettre leur crime. Je reviens encore sur, j'en ai parlé dans la balado précédente, mais John Douglas, le célèbre profileur du FBI, il avait déjà dit que si on trouve une femme assassinée chez elle, on soupçonne d'abord le conjoint, c'est presque automatique. Et si c'est pas le conjoint, à ce moment-là, ben c'est probablement un tueur sexuel qui ne connaissait pas sa victime. Ça peut arriver, évidemment. Mais voilà, tout ça pour vous dire que c'est quand même impressionnant. La victime est assassinée chez elle presque à coup sûr. C'est ça que ça veut dire, 91,4%. Presque à coup sûr, ça se passe chez elle si son conjoint est suicidaire. Maintenant, les conjoints non suicidaires. Eux, l'arme à feu, ben, c'est beaucoup moins. Ils utilisent l'arme à feu dans 25,9% des cas. Ensuite, Ensuite, je regarde ça dans l'ordre. Ensuite, c'est la strangulation. Voyez-vous, la strangulation est plus populaire chez les non-suicidaires, donc dans 20,7% des cas. Ensuite, on arrive à l'arme blanche, dans 19% des cas. Ensuite de ça, l'objet contondant, 17,2%. Et battu à mort dans 12,1%. Donc, la strangulation est plus spontanée, peut-être. Comme je le disais tantôt, les non-suicidaires, c'est peut-être plus spontané. C'est peut-être quand même accumulé. Il a peut-être déjà pensé à tuer sa blonde, puis ça y a comme sorti de la tête. Puis à un moment donné, ça revient avec une autre chicane, tout ça. Mais ça peut être quand même assez spontané. Donc, la strangulation, voilà. On va voir des cas de toute façon tantôt. Il y a aussi d'autres cas. Contrairement à nos suicidaires, des fois, ils sont un petit peu plus inventifs, nos non-suicidaires, parce qu'ils utilisent d'autres moyens que je n'ai pas vus chez les suicidaires. Par exemple, l'empoisonnement, dans 3,4% des cas. Par noyade aussi, même proportion, 3,4% des cas. Et par incendie, rien de moins. Dans 5,2% des cas, j'ai même un cas célèbre en tête, le fameux Tuxedo Kid de Réal Léo Bertrand, qui dans les années 30 avait été acquitté du premier meurtre de sa femme pour toucher l'héritage. Il a été acquitté, donc il a touché l'héritage, il a fait la belle vie pas longtemps parce qu'il dépensait comme un idiot. Et sa deuxième femme, plusieurs années plus tard, ben, il s'est remarié avec une femme beaucoup plus vieille que lui et il a essayé de faire passer ça aussi pour un accident, mais cette fois-là, il a dû se dire « je prendrai pas la même méthode parce que ça va avoir de l'air louche ». Donc celle-ci, il l'a tué puis il a brûlé son corps dans un chalet, donc ça s'est fait par incendie. Et il y a même un cas... que l'arme du crime est un véhicule automobile. Rien de moins. Ensuite, bien, pour ce qui est de la mise en scène est beaucoup plus présente chez les non-suicidaires. On va voir des cas. Inquiétez-vous pas, on va tous les voir. Ben tous, du moins jusqu'où je suis rendu dans mes recherches. Et je vous partagerai le reste au fur et à mesure. Donc, dans 24,1% des cas, c'est presque un cas sur quatre qui a de la mise en scène. C'est quand même pas rien. Donc, voilà, les plus tordus sont peut-être là dans les non-suicidaires parce qu'ils veulent brouiller les traces, ils veulent cacher ça. On va voir différents cas. On retrouve aussi de la mutilation dans 3,4% des cas. Et de la surpuissance aussi, comme on dit en anglais, overkill, ça veut dire de l'acharnement, ça c'est dans 8,6% des cas. Et la victime, encore là, souvent, un peu moins souvent que chez le conjoint suicidaire, elle est tuée chez elle dans 74,1% des cas. Donc c'est 3 cas sur 4, c'est quand même pas rien. Et il y a un petit 17,2% que la victime est tuée en dehors de chez elle. Mais encore là, il faut voir qu'est-ce que ça signifie. Comme le cas de François Moreau, là, dans les années 1800, qui a assassiné sa femme dans un boisé, mais c'est quand même leur boisé sur leur terre et tout ça. Donc, c'est jamais bien, bien loin de la résidence. Donc, on va laisser un peu de côté les statistiques, mais j'espère que ça vous aide un peu à comprendre quand même, parce que ces statistiques-là sont assez explicites, je pense, en tout cas, dans cette catégorie-là. Peut-être que dans d'autres catégories, je verrai plus tard, il y a certaines qui sont plus difficiles à départager. Mais bon, on reste avec nos moutons. Et ce soir, bien, je continue avec ma nomenclature de certains féminicides. On en arrive au début du 20e siècle, donc le 24 février 1900. Cette fois-ci, la victime s'appelle Bridget Condon. Elle avait 32 ans. Et elle a été tuée par arme à feu par son conjoint qui, lui, était non-suicidaire. L'action se passe sur la rue Jacques-Cartier à Québec. Et son mari, Attachez votre sucre, son mari s'appelait Joseph Herménégil Caz et il était policier. Ah oui, rien de moins. 27 ans, le monsieur. Donc, il avait 5 ans de moins que sa femme. Mais c'est ça, monsieur était policier. En plus, ils habitaient un logement juste au-dessus du poste de police numéro 3 sur la rue Jacques-Cartier. Hein? Faut-tu être bien placé pour être en sécurité? C'est merveilleux. Et de ce qu'on sait de cette affaire-là, c'est que le 24 février 1900, vers 14h, donc en plein après-midi, il n'y a pas d'heure pour ce type de crime-là, trois coups de feu ont été entendus dans l'appartement. Et à l'arrivée des premiers constables, c'est sûr qu'ils étaient juste en dessous, eux autres, c'était pas très long pour arriver sur place. À l'arrivée des premiers constables, eh bien, Bridget était déjà morte. Au procès, la mère de l'accusé, donc la mère de Joseph Caz ou Cazès, qui s'appelait Adèle Potvin, elle a témoigné sur le fait que son fils avait passé la matinée au marché avant de revenir chez lui vers midi et demi et avait quelques verres d'alcool dans le sang. Donc, il buvait pas mal de bonheur, le monsieur. Vers 13h30, Cazès avait échangé des mots en anglais avec sa femme, donc la dispute était déjà commencée. Et quoi qu'elle ne comprenait pas la langue en anglais, je veux dire, Adèle, donc elle a été témoin, la belle-mère, si on veut, la mère de l'accusé, elle a quand même compris que la dispute était sérieuse, donc elle s'est retirée dans une autre pièce avec les enfants, dont un était âgé de 6 mois et un deuxième de 18 mois, donc deux jeunes enfants, et pour les empêcher de pleurer, et une chance, grâce à son instinct, parce qu'elle a peut-être sauvé la vie des enfants, en les changeant de pièce, ben pas longtemps après, c'est là qu'on a entendu les fameux trois coups de feu. Et après les trois coups de feu, elle a témoigné à le fait plus tard que le bruit qu'elle a entendu par la suite, c'était comme un corps là, qui tombe sur le plancher. Fait que j'imagine que ça ne trompait pas beaucoup à ce point de vue-là. Et quand elle a finalement décidé de sortir de sa cachette, là, peut-être à l'arrivée des policiers, là, c'est pas mentionné, mais elle a vu la victime, donc Bridget, elle était allongée sur le plancher et elle gisait sur son flanc gauche. Et la mère, en mère honnête qu'elle était, bien, elle a avoué évidemment que son fils consommait beaucoup d'alcool. Donc le procès, comme je le disais, s'est déroulé au palais de justice de Québec du 10 au 14 mai 1900, donc assez rapidement après le crime. C'est le docteur Albert Marois qui a raconté avoir vu le cadavre de la défunte gisant sur le côté gauche, et là je cite ses paroles, dans une petite chambre à l'extrémité du passage, la main droite étendue et crispée sur une paire de bretelles. Le corps baignait dans une mare de sang. Il y avait une chaise renversée près de la fenêtre et au-dessus de cette fenêtre, le témoin a remarqué dans le mur des trous qui lui ont paru avoir été faits par des balles. Donc, il y a des balles qui se sont trouvées dans les murs. Le témoin est entré alors dans de minutieux détails à propos de la position du cadavre. Il en a fait l'autopsie à la morgue le jour suivant. Il a constaté alors que la mort avait été causé par 5 coups de pistolet chargés à balles. Là, c'est leur façon d'écrire là, à cette époque-là. Mais là, on parle plus de 3 coups, là, on parle de 5. OK, il y a divergence. Vous en êtes peut-être rendu compte dans mes précédentes balados. Je le dis pas tout le temps, mais il y a souvent des divergences d'opinion. Un dit c'est 3 fois, l'autre dit c'est 5. Bon, bref, ça dépend toujours des... Qui croire, en tout cas, l'important, c'est que la preuve générale est quand même assez explicite. Mais il a remarqué qu'il y avait 6 blessures. Et petite parenthèse en passant, le docteur Albert Marois, si ça vous dit quelque chose, si vous avez lu mes livres, vous le connaissez peut-être. Là, on est en 1900 et il exerce déjà des autopsies, mais il va se rendre célèbre surtout en pratiquant l'autopsie sur le corps de Hoar Gagnon. En 1920, rien de moins, l'enfant martyr du Québec. Et il va se rendre aussi célèbre la même année. Il a fait aussi l'autopsie de Blanche Garneau. Mais dans ce cas-ci, il va se mettre un peu les pieds dans les plats parce que moi, j'ai découvert, ça n'a jamais été soulevé, je pense, à l'époque, En tout cas, les journaux ne semblent pas l'avoir critiqué beaucoup. Mais Albert Marois, à un moment donné, dans mon étude du dossier judiciaire de Blanche Garneau, il s'est contredit sur un détail. Vous irez lire mon livre là-dessus. C'est étonnant. C'est assez étonnant. Et ce qui m'a étonné aussi, c'est qu'on a, alors que c'était un meurtre non résolu, l'affaire de Blanche Garneau, on a quasiment dévoilé tous les détails de, de l'autopsie dans les journaux. Alors, c'était pas fort, là, parce que d'habitude, une bonne enquête policière, on se garde des éléments pour nous, pour ensuite confondre le meurtrier quand on l'a trouvé. Là, je dis pas ici, dans un cas comme Cazès, qui est en train de subir son procès, là, il faut tout dévoiler, c'est normal, parce que la preuve, elle doit devenir publique pour qu'il y ait une accusation et une condamnation. Mais dans un cas non résolu, comme Blanche Garneau, là, c'était vraiment pas fort. Donc, cette parenthèse, je ne l'ai pas faite dans le but de nuire à la réputation d'Albert Marois et de vous dire qu'il a commis des erreurs aussi dans le procès de Cazès. C'est pas ça du tout. C'est juste pour vous montrer que parfois, bon, ça arrive. Et que ce qui est important, c'est pas la réputation d'un médecin, c'est ce qu'il dit au moment du procès. Donc, est-ce que ça se tient? On va y revenir parce qu'il y a des cas, des fois, qui sont... on s'attaque personnellement aux témoins, surtout les témoins experts et tout ça. Qu'est-ce qu'il faut étudier? Pardon. Ce qui est important d'étudier, c'est ce qu'ils ont dit devant le témoignage sous serment. C'est ça qui est important. Est-ce que ça se tient? Est-ce que c'est de la preuve? Tout ça. Donc, si ça se tient puis que ça correspond au domaine ou à d'autres spécialistes, ben, il n'y a pas de problème à ce moment-là. Donc, dans le procès de Cazès, la défense a tenté d'établir une preuve de bonne réputation en raison du métier qu'il exerçait. Évidemment, il était policier. Mais il semble que ça n'a pas fonctionné. Pour les amateurs d'histoire, David Dubé, qui avait assassiné un dénommé Thomas Adams Mooney en 1899, eh bien, il a reçu son verdict en même temps que Cazès, c'est-à-dire que, et je lis l'extrait, « Les deux prisonniers, la tête entre les deux mains, paraissaient plongés dans de profondes et amères réflexions sur leur crime. Et quand on lui a demandé à Cazès s'il avait quelque chose à déclarer, il a alors répondu d'une voix sanglotante, mais avec assez de force cependant pour être parfaitement entendu de tout le monde, « J'étais sous ce jour-là et je sais pas ce que j'ai fait. » Avez-vous déjà entendu ça, ce genre de phrase-là? Oui, je pense qu'on va l'entendre encore. Voyez-vous, c'est ça qui est important d'étudier aussi les cas anciens. Il y a des choses qu'on n'a pas inventées, là. Si vous entendez un gars qui a tué sa blonde ou sa femme, je sais pas, au moins cette semaine, puis il dit ça, ben, regarde... C'est pas un argument récent, là. Il y en avait aussi en 1900. Et en prononçant la sentence, ben, le juge Bossé, lui, s'est permis de répliquer. Il s'adressait même au condamné. Cazès, votre crime a été épouvantable. C'est votre femme, la mère de vos enfants, que vous avez tué. Vous aviez un ménage heureux. Vous viviez dans un état de société où vous étiez à l'abri du besoin, où vous pouviez élever vos enfants dignement. D'après des rapports qui m'ont été faits, vous avez toujours eu un caractère d'une violence extraordinaire que vous n'avez jamais cherché à contrôler. Il vous est arrivé même, dans des moments de rage furieuse, de commettre des actes d'une atrocité sans nom. Donc, je ferme les guillemets, mais ça laisse même entendre des actes. Est-ce qu'il parlait juste du meurtre de Mme Condon, ou s'il parlait, s'il laissait sous-entendre qu'il y avait peut-être eu autre chose. Je n'en sais pas grand-chose, malheureusement. Mais bon, évidemment, on a compris qu'il a été condamné à mort, mais il n'aura pas été pendu parce que sa sentence a été commuée en emprisonnement à vie. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. J'aurais aimé ça vous en faire d'autres, mais je pense que l'épisode, faut pas que ce soit trop long quand même. Alors, au prochain épisode, il n'y aura pas de statistiques. Donc, si vous voulez Les chiffres, en tout cas mes chiffres à moi, j'en ai pas honte du tout après des années de recherche. Et il va y en avoir encore parce que, comme je l'expliquais, la recherche se continue toujours. Alors, si vous voulez avoir les chiffres, ben, vous avez juste à réécouter l'épisode 2 de Féminicide. Alors, le prochain épisode, ben, on continuera nos histoires en racontant d'autres féminicides et tout en apprenant à travers ça les différences entre conjoints suicidaires et non suicidaires, les plus ratoureux, les plus malins, les plus vicieux, les plus... voyez-vous, là, l'image commence à se dessiner de plus en plus. Peut-être que ça va nous aider à comprendre davantage, je l'espère. Alors, voilà. C'était une autre balado de Mémoire d'archives. Si vous avez des suggestions à me faire, écrivez-moi à eric.veillette@hotmail.ca. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à la prochaine.